Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Rouen en sciences de l'éducation et mes objets de recherche portent sur la place du jeu dans la socialisation morale et politique des enfants et des adultes et aussi sur la pédagogie universitaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dispositif qui est à la fois un dispositif pédagogique et des recherches et je vais insisterai pas mal dessus parce qu'effectivement, il faut penser ensemble, à mon avis, pédagogie et recherche. Et donc, c'est un dispositif de Serious Game qui était destiné initialement à nos étudiants en carrière sociale, puisque je suis responsable de formation jusqu'à aujourd'hui, du DUT carrière sociale à l'UIT d'Évreux, on forme des futurs éducateurs spécialisés. Donc, le dispositif avait vraiment été conçu d'abord prioritairement pour eux et pour d'autres types d'étudiants. Alors, pour un petit préambule, donc c'est aussi de réfléchir quelle peut être la place du jeu et du jouet en formation universitaire. Donc comment développer aussi d'autres méthodes, d'autres pédagogies actives. Alors aussi dans mon parcours, j'ai été militante de l'éducation nouvelle, donc c'est aussi lié à mon propre parcours de chercheur et d'universitaire, où j'ai toujours eu volonté d'essayer de développer des méthodes dites actives ou innovantes. Alors l'usage est ancien des jeux de rôle en formation universitaire, il y a beaucoup de formations où on l'utilise, mais c'est les jeux de rôle qui peuvent être utilisés, les mises en situation, qu'on peut appeler ça comme ça, demandent quand même une certaine expérience de l'enseignant et aussi une certaine appétence de l'enseignant pour ce genre de dispositif, mais aussi des étudiants, c'est-à-dire que j'ai pu tester d'autres types d'interventions, donc les jeux de rôle avec les étudiants, et dans ces moments-là, j'ai pu remarquer c'est que tous les étudiants ne participent pas. Il y en a beaucoup qui se mettent plutôt en retrait, finalement, parce que se mettre acteur, se jouer devant les autres, n'est pas toujours forcément évident, ni pour l'étudiant, ni pour l'enseignant. Donc, encore une fois, un rappel, c'est que de ne pas séparer, pour moi, en tout cas, recherche et pédagogie, les deux vont ensemble. La pédagogie est une recherche. Et là, c'est aussi lié à mon parcours, donc là, plutôt intellectuel et universitaire. Je m'appuie sur la philosophie et la sociologie dite pragmatiste, donc j'en parlerai un petit peu, qui est notamment initiée par la philosophie de John Dewey, et donc c'est très ancien, ce que M. Taddeï a présenté ce matin dans l'entretien. Finalement, c'est rien de nouveau, ça date du début du XXe siècle, où on mettait déjà en œuvre les pédagogies actives et où Dewey militait fortement pour justement changer la manière d'enseigner à l'école, puisque c'était déjà des réflexions qui existaient à cette époque-là. Alors l'origine du projet, c'est évidemment qu'il y a un hiatus entre la théorie et la pratique, et c'est quelque chose qui est très vite... très vite émergé par les étudiants qui ont très vite reproché. Finalement, nos étudiants, ils partent en stage, ils partent 2 mois en stage, mais ce stage arrive assez tard dans leur formation puisqu'il arrive au cours du 2e semestre. Et donc, les étudiants, quand ils arrivent, nous, on est au bachelier, avaient très envie d'aller sur le terrain et ne voyaient pas toujours comment ce qu'on pouvait leur apprendre en cours théorique pouvait leur être utile sur le terrain. Donc, ils critiquent souvent que c'est des formations déconnectées du réel et qu'il faudrait davantage, justement, être plus professionnalisant. Alors, la question qu'on peut se poser au départ, qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'apporterait de plus ou de différent un serious game en formation et en mettant en scène, finalement, des situations réelles, de reprendre un peu ce qui se fait en jeu de rôle, finalement, ou en jeu dramatique, mais de l'insérer dans un monde virtuel. Donc, on est parti, au départ, on est toujours une toute petite équipe, et on a fortement bénéficié de l'appui du SUN pour réaliser ce jeu. On est parti de situations réelles vécues par les étudiants au cours de leur stage, qui nous ont scénarisé, et qu'on a introduit donc, dans un monde virtuel, dans un jeu sérieux. Alors là, je vous donne une définition, mais vous pouvez la lire, c'est une définition assez classique, finalement, de ce que c'est qu'un jeu sérieux. Et l'autre question, et on va y revenir, c'est finalement, est-ce que le jeu permet d'apprendre? Qu'est-ce qu'il permet d'apprendre aussi? Donc on a voulu aussi utiliser les mécanismes d'immersion des jeux vidéo afin de faciliter le questionnement éthique. Alors là, je n'aurai pas le temps de m'étendre, mais en ce moment, il y a beaucoup de mutations dans le champ du travail social, et aussi, ça peut marcher aussi pour le champ médical, c'est tout ce qui est justement la formation à l'éthique professionnelle notamment, qui finalement n'est très peu réfléchi dans les formations, ou du moins ça arrive assez tardivement. C'est-à-dire que les questionnements éthiques, et notamment comment l'étudiant va se construire son identité de futur professionnel, c'est notamment par le mémoire, finalement, qu'on arrive à un certain niveau de réflexivité, après on peut en discuter, mais, et que c'est à ce moment-là, finalement, que va se construire une réflexion éthique, même s'il y a d'autres choses qui arrivent avant. Alors l'idée, c'était que l'étudiant peut jouer différents types de personnages, de différentes professions, pour aussi éventuellement changer son point de vue sur les autres. C'est-à-dire qu'on est parti d'une structure un peu qui est une ITEP, une institution thérapeutique, éducative et pédagogique, qui est destinée à où différents professionnels se croisent. On a des psychologues, des éducateurs spécialisés, des enseignants spécialisés. Quand on observe sur le terrain, ces différentes professions ont du mal à communiquer, ont du mal à échanger les informations, et finalement, les missions des uns et des autres sont mal connues par les acteurs, et les étudiants non plus n'ont pas toujours connaissance. Les frontières entre les différentes professions sont parfois très poreuses. Donc l'idée aussi, c'était qu'ils puissent jouer à la fois des missions d'éducateurs spécialisés, à la fois des missions d'enseignants spécialisés et de psychologues, pour justement aussi changer son regard éventuellement sur l'autre profession, ou comprendre mieux, en tout cas, pardon, mieux réaliser les missions des uns et des autres. Alors, là, c'était effectivement notre souci, c'était de comment faire un jeu qui puisse former à l'éthique et au réflexionnement éthique, à la réflexion éthique plutôt. Et du coup aussi, ça renvoyait forcément à notre propre manière de concevoir l'éthique professionnelle et ce qu'on entendait par là. Là, on a eu beaucoup de débats au sein de l'équipe, puisque au départ, je travaillais avec une collègue qui est psychologue, et du coup, on n'a pas du tout les mêmes entrées. Et là, ça peut être aussi intéressant dans ce type de dispositif, c'est finalement, les enseignants se retrouvent et une confrontation des pratiques et aussi des valeurs pédagogiques, des objectifs pédagogiques qu'on veut mettre en œuvre. Mais également aussi avec les problèmes techniques. C'est-à-dire que nous, on avait aussi parfois des objectifs pédagogiques qu'on voulait atteindre, mais finalement, faute de temps, faute de moyens, on avait un peu de sous, mais pas non plus énormément. Du coup, on a dû parfois couper nos envies pédagogiques pour pouvoir que ça soit réalisable d'un niveau technique. Alors, éthique professionnelle ou déontologie professionnelle, ça c'était un premier questionnement, puisque ce que je vous disais juste avant, c'est que donc avec ma collègue en psychologie, elle a plutôt une pratique de la déontologie. Et du coup, on n'était pas forcément d'accord ce qu'on mettait derrière le mot éthique ou derrière la déontologie. Et donc, la déontologie, c'est bien de donner des principes, c'est plutôt renvoyé à la science du devoir, qui donne des principes pour pouvoir agir, mais qui est plutôt prescriptive. Donc, on va essayer de donner un cadre dans lequel les acteurs, que ce soit en professionnel de la santé ou les enseignants, puissent se référer. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait de l'éthique, puisqu'il n'y a pas cette idée de réflexivité personnelle sur comment je dois agir. Donc, l'éthique professionnelle a quelque chose de beaucoup plus étendu que la déontologie, et elle recouvre ce que Thierry Noir disait, ce qui relève plus aussi de la régulation éthique dans le cadre d'une profession donnée. Qu'est-ce qui va être important ? Et dans notre idée de conception de jeu, ce n'était pas de dire ce qu'il fallait faire. Quelles étaient les bonnes pratiques ? Et c'est souvent une déviance en fait, des serious games, surtout dans le domaine de la santé, qui vont prescrire finalement quels sont les bons actes à faire. Or, nous, parce que justement il y a cette référence au pragmatisme et à Dewey, il y avait cette volonté de ne pas dire ce qu'il fallait faire, mais de dire, à partir des situations vécues, vous avez agi de cette manière-là, on peut en discuter, pourquoi vous avez agi de cette manière-là, comment vous allez construire vous-même ensuite votre propre réflexivité. Donc ça, c'était l'origine. Le jeu aussi permet de valoriser la capacité réflexive du oui, et il y a aussi une position très particulière de ce philosophe qui dit bien que l'éthique est située. C'est pas quelque chose qui est donné de manière définitive, mais c'est bien dans la situation même finalement qu'elle se construit. Nos valeurs se construisent en situation. Elles sont pas déconnectées du réel et elles s'imposeraient de nous à l'extérieur. Oui, on peut parler de respect de l'individu, mais c'est bien dans le face-à-face, dans la situation même, que cette notion de respect va prendre corps. Et ça, c'est très important, c'est dans la pratique ordinaire, finalement, que se construisent les valeurs, où on va développer justement cette capacité, déjà, réflexive. Bon, je passe là-dessus, c'était pas le plus important. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Alors, donc du coup, il fallait se donner quelques garde-fous pour éviter finalement de moraliser le joueur et de lui dire ce qu'il devait faire ou pas faire. Et ça, c'était compliqué, je ne vous le cache pas, mais c'était aussi de donner cette possibilité finalement au joueur de pouvoir agir sur son environnement. On est parti, je vous montrerai après des exemples très rapidement, de comment parce que l'espace, justement, on en a parlé tout à l'heure, joue sur les relations professionnelles et que l'aménagement de l'espace va avoir, de réfléchir à l'aménagement de l'espace, peut résoudre des conflits ou des tensions au sein d'une équipe. Donc, l'environnement virtuel permet, contrairement aux jeux de rôle, par exemple, ou aux jeux dramatiques, de pouvoir agir sur cet espace-là. Et ça, c'était un point important. Donc ça, c'était aussi une manière, finalement, de ne pas tomber dans cette moralisation du joueur. L'autre aussi, qu'il y avait plusieurs bonnes solutions, qui complique un peu la scénarisation, puisque en fait, finalement, il y a plusieurs manières d'arriver à la solution finale. Alors, bon, c'est ce que je viens de vous dire, et surtout le jeu vidéo, contrairement au jeu de rôle, qui peut mettre dans une situation parfois complexe les étudiants, a une rétroaction immédiate. C'est-à-dire que l'étudiant est seul avec son ordinateur et n'a pas finalement ni le jugement de l'enseignement, ni le jugement de ses camarades. Donc ça, c'est ce que je vous disais juste à l'instant. Alors là, par exemple, donc, on est parti de cette mission-là, où, d'un exemple très concret, finalement, on ne mesure pas non plus les points du joueur, mais finalement, est-ce que ces actions permettent de rétablir le bien-être de la station. L'idée, c'est qu'on est dans une station spatiale, donc on a aussi, pourquoi on a mis ça dans un monde fictionnel, c'est que c'était moins cher. Aussi, il faut savoir que le 3D c'est très très cher, mais aussi ça n'empêche pas les étudiants de s'immerger dedans, hein, pas du tout, mais c'était pas de mesurer finalement, d'évaluer les actions propres du joueur, mais est-ce que ces actions vont permettre finalement de résoudre les tensions qu'il y a au sein de cette équipe. Donc il arrive, il y a une équipe qui est en tension et doit arriver pour essayer de résoudre le problème en apportant son expertise. J'essaie d'aller vite, donc c'est pas trop facile. Donc le premier exemple, c'était des bébés qui pleurent tout le temps au repas, et donc le joueur doit enquêter un petit peu pour savoir pourquoi ces bébés pleurent, et il se rend compte que finalement l'aménagement de l'espace est très mal fichu pour les personnes de la restauration, et doit rééquilibrer, donc là vous avez un mini-jeu juste en dessous, qui est de rééquilibrer l'espace pour que la circulation des personnes soit le plus optimum possible, ce qui va éviter un certain nombre de tensions au sein de l'équipe, et donc que les bébés pleurent finalement. Ça c'était la première mission du psychologue. Donc c'était très scénarisé. Alors, par contre, dans cette optique, on avait aussi essayé de construire combien de temps pouvait jouer le joueur, donc il ne me reste plus que 2 minutes. Donc, on ne peut pas contrôler finalement l'expérience ludique du joueur. Ça, c'était très compliqué de savoir finalement si nos étudiants étaient joueurs ou pas. Du coup, ce que je vous disais au départ, c'est que ce dispositif a été à la fois, c'est un dispositif pédagogique, mais aussi de recherche. Donc, il y a eu des enquêtes, à la fois avant et après, et en cours de jeu, de tester, finalement, quel était le profil de nos étudiants. Nos étudiants ne sont pas du tout des joueurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Nous, on a majoritairement des filles, et 80% ne jouaient pas. Est-ce que ce dispositif pouvait intéresser aussi des non-joueurs ? C'est le cas. Donc, il y avait aussi cette idée d'essayer d'équilibrer notre jeu en fonction des étudiants joueurs et des non-joueurs, qui ne soient pas non plus que ciblés pour les uns ou pour les autres. Néanmoins, on ne contrôlait pas du tout le temps qu'il fallait pour les étudiants de pouvoir résoudre leur mission, et on a été parfois très surpris du temps qu'ils ont mis, beaucoup plus de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que les scénarios devaient... les missions durent à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Certains ont mis une heure. Donc on a été assez surpris de ça. Et ça joue énormément, finalement. Là, je vous présente quelques résultats. Ça joue énormément sur l'engagement de l'étudiant dans le dispositif. Donc vous avez un premier graphique qui revient sur le niveau d'amusement. Est-ce qu'il y avait aussi cette idée un peu de déconstruire l'idée préconçue que parce qu'on joue, on s'amuse ? Bon, ça c'est déjà déconstruit dans un premier temps. C'est pas parce qu'on joue qu'on va forcément s'amuser, même si c'est et c'est pas pour ça qu'on va apprendre mieux. Ça c'était aussi une volonté en tant qu'enseignant chercheur de déconstruire cette prénotion. Donc on voit bien sinon que selon que le joueur soit le joueur ou non ou pas, il y a quand même un niveau d'amusement différent. L'étudiant joueur a plus de facilité pour appréhender finalement son environnement virtuel et de s'occuper davantage des objectifs pédagogiques qu'il y a derrière. Alors que le non-joueur finalement perd du temps, quelque part, pour se repérer dans l'espace, pour comprendre comment le jeu fonctionne, et du coup il a plus de mal, en tout cas, à voir les objectifs pédagogiques qu'il peut y avoir derrière. Et du coup, là, vous voyez le deuxième graphique qui est vraiment selon le temps passé. Finalement, quand le joueur, l'étudiant, a mis beaucoup trop de temps, parce qu'il a galéré, entre guillemets, hein, il s'est perdu, il ne savait pas ce qu'il fallait faire, il n'avait pas cette culture ludique qui lui permettait finalement de se mouvoir facilement dans le dispositif, et ben, quand ça dépassait 45 minutes, c'était beaucoup trop long, donc il a plus du tout, il s'est plus du tout engagé finalement dans ce dispositif. Alors, je conclue. Ce que a permis hein, cette réalisation, ce Serious Game, que vous pourrez tester si vous avez une adresse universitaire de Rouen, alors je ne sais pas encore pour quand, mais ça viendra, ça va être possible, que ça mutualise aussi les connaissances et ça confronte donc nos valeurs pédagogiques, ce que je vous disais. Là, on est obligé de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut leur faire apprendre. Et là, on voit bien que déjà, à notre niveau, finalement, il y a un questionnement éthique sur qu'est-ce qu'on veut amener et apprendre à nos étudiants. Et l'autre, une énorme difficulté, c'est la double temporalité des jeux sérieux, parce que ça nous a demandé beaucoup d'allers-retours, finalement, de tests et de retours des étudiants sur qu'est-ce qu'il fallait améliorer, qu'est-ce qu'il fallait changer, et sur les expérimentations. Donc c'est très chronophage, et ça demande, ça change aussi notre rapport au temps et dans ce qu'on va évaluer. Le jeu n'est pas évalué, ils n'ont pas de notes, hein, on est bien d'accord. Le jeu, on joue, après on débrief. Et c'est peut-être dans ces moments de débriefing, finalement, qu'il y a le plus d'apprentissage. Mais là aussi, il fallait faire des allers-retours pour construire un canevas de débriefing qui tienne la route. Et voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est que c'est des effets qui ne peuvent être finalement évalués que sur le long terme. Donc j'étais très rapide et synthétique, mais voilà.